Il est 7h.
Mais c'est très bien que ce soit les pompiers. En plus, ils sont tout doux, c'est des gens de métier. On voit, oui, ça donne plus confiance.
Des pompiers qui prennent part eux aussi à la campagne de vaccination. Nous irons dans un centre du Pas-de-Calais. Eva, elle, s'est suicidée à 11 ans, victime de harcèlement pendant des mois. C'était en 2019. Trois collégiens viennent d'être mis en examen. Ils avaient 11 ans, eux aussi, au moment des faits. Très gros succès pour MaPrimeRénov, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Seul problème, les artisans ont du mal à répondre à la demande. Et puis, on vous emmènera en Virginie, où certains pro-Trump surarmés se sont retrouvés pour une manifestation entre fatalisme et résignation.
Juste après ce journal, les faillites au plus bas depuis 30 ans. Mais pour beaucoup d'entreprises, la survie est artificielle. L'éclairage éco, Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet, Mediapro, qui veut continuer à diffuser la Ligue 1 sans payer. Mais de qui se moque-t-il, demande Virginie Fulpin dans son édito sport, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais d'abord, on va vous raconter cette histoire, celle d'un infirmier malien très mobilisé pendant cette pandémie, évidemment. Et bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, on lui a refusé la naturalisation française parce qu'il travaille trop.
Il cumule en effet deux emplois d'infirmier, un temps plein et un temps partiel. Il dépasse donc le temps de travail maximum légal. Justin Morin l'a rencontré chez lui, en banlieue parisienne.
Chacard, c'est son pseudo parce qu'il craint d'être pris en grippe par l'administration, a été surpris quand il a ouvert son courrier quelques jours après Noël. Sa demande de naturalisation, transmise il y a plus de 2 ans, est ajournée. Motif, trop d'heures de travail déclarées, bien au-dessus du plafond des 151 heures mensuelles légales.
Franchement, j'ai été un peu choqué pendant toute la période Covid. J'étais sur la première ligne. Il y avait beaucoup de personnel qui était en arrêt. C'était très dur. À un moment donné, même, je suis tombé malade. Donc j'ai du mal à comprendre. Je suis sur le territoire français, ça va faire presque 20 ans. Je suis arrivé comme étudiant, j'ai fait toutes mes études en France ici. Je n'ai jamais eu de problème avec l'administration française. Je suis très bien intégré, on peut le dire.
Alors quand Marlène Schiappa annonce à l'automne que les naturalisations vont être accélérées pour les profils comme le sien...
Je me dis, ouf, un soulagement peut-être pour moi. Donc j'ai imprimé le formulaire, mon responsable l'a rempli tout de suite. Il m'a soutenu, il m'a dit, j'espère que ça va marcher. Non, j'ai du mal à comprendre.
Cette nationalité française lui permettrait de revenir dans la fonction publique et de bénéficier d'une formation d'infirmier anesthésiste. Il compte rapidement déposer un recours auprès du ministère de l'Intérieur que nous avons joint et qui affirme étudier son dossier.
Voilà, un témoignage recueilli par Justin Morin et on vous tiendra bien entendu au courant de la suite de cette affaire.
À la fin de la semaine dernière, on avait vacciné très précisément 422 000 personnes. Là, je peux vous dire que les deux prochaines semaines, on va changer de braquet.
C'était hier soir sur France 5. Jean Castex promet donc d'accélérer le mouvement face aux critiques sur la campagne de vaccination. Et à tous ceux qui pointent le manque de doses, il répond que la France en a reçu 1 600 000 et qu'il n'y a pas de stock caché.
Alors le rythme de la vaccination s'accélère donc. Dans le Pas-de-Calais, 4 centres gérés par les pompiers ont ouvert hier. Un renfort très utile, notamment dans les déserts médicaux.
Encore faut-il avoir assez de doses, éternel problème. Écoutez le reportage de Lionel Gougelot à Bruay-la-Buissière.
En offrant son épaule à la seringue de l'infirmier des pompiers, Monique, 82 ans, semble un peu sous le charme de l'uniforme.
Mais c'est très bien que ce soit les pompiers. En plus, ils sont tout doux.
C'est rassurant, ça donne encore plus confiance.
Pour moi, oui. Oui, on voit que c'est des gens de métier. On voit, oui, ça donne plus confiance, comme vous dites. Oui, oui.
Les pompiers avaient déjà été mis à contribution en 2009 pour la grippe H1N1. Pompiers, infirmiers, professionnels ou volontaires, une participation naturelle à l'effort national, selon le capitaine Guérin, infirmier coordonnateur.
Ce sont des volontaires qui travaillent ici aujourd'hui. Ils travaillent soit à l'hôpital, soit ce sont des libéraux, et donc ce sont des gestes qu'ils ont l'habitude de réaliser plusieurs fois par jour auprès de la population.
Et ici, en zone rurale, ce renfort est d'autant plus apprécié, selon Patrick Gosselin, le médecin des sapeurs-pompiers.
C'est vrai que les zones rurales sont quand même dépourvues, et ça nous permet d'intervenir sur des zones un peu plus désertiques au niveau population médicale.
70 injections par jour, on s'adapte à la livraison limitée des vaccins, reconnaît Alain Delannoy, le président du SDIS 62.
J'espère que ça va s'arranger, qu'on aura une organisation qui soit efficace pour obtenir les vaccins et que les vaccins soient suffisants justement pour alimenter tous les centres qui ont été créés.
Et compte tenu de l'incertitude sur ces livraisons de vaccins, aucun rendez-vous n'est fixé ici au-delà du 14 février prochain. À Bruay-la-Buissière, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et en Italie, une dame de 108 ans a été vaccinée hier dans sa maison de retraite de Milan. Elle avait déjà vaincu le Covid l'an dernier. Sa conclusion, Dieu m'a oublié.
7h05 sur Europe 1, une histoire absolument terrible. qui va vous interpeller, c'est sûr, l'histoire d'Evaël, 11 ans, élève de 6e à Herblay, en région parisienne. Elle s'est suicidée au mois de juin 2019, après des mois de harcèlement de la part d'une enseignante et de plusieurs camarades.
Oui, et trois collégiens de 13 ans viennent d'être mis en examen. Jérôme Lacroix, c'est exceptionnel.
Exceptionnel, oui, en raison de la jeunesse des collégiens. 11 ans seulement au moment des faits. L'un d'entre eux est placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir participé à l'agression la plus grave. Le 6 février 2019, Evaël est poussée sur la chaussée alors qu'arrive un bus, elle manque de se faire écraser et lorsqu'elle proteste auprès de son bourreau, il lui répond par une gifle qui fait sauter ses lunettes. Evaël, élève de 6e, décrite par ses parents comme précoce et extravertie, a subi tous les jours pendant des mois des attaques verbales et physiques. Elle avait fini par s'en ouvrir à ses parents qui avaient déposé plainte pour harcèlement et violence. Mais la jeune fille s'est pendue dans sa chambre en juin 2019.
À 11 ans. Et dans cette affaire, il faut aussi rappeler que la prof de français d'Evaël a déjà été mise en examen pour harcèlement.
Là encore, c'est rarissime. L'animosité de ses élèves aurait été encouragée, selon les parents, par cette enseignante de 58 ans. La justice lui reproche d'avoir fait d'Evaël son souffre-douleur. Un conflit né dès la rentrée pour une histoire de cartable trop lourd. L'enseignante a aujourd'hui interdiction d'enseigner et l'obligation de suivre des soins psychologiques.
Merci Jérôme Lacroix. Et puis c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès d'Édouard Balladur devant la Cour de justice de la République. Public, l'ancien Premier ministre est soupçonné de financement occulte pour sa campagne présidentielle de 1995.
Vous avez forcément entendu parler du dispositif MaPrimeRénov, dont la nouvelle version a été lancée au début de l'année. C'est un énorme succès.
Et oui, cette aide à la rénovation énergétique est désormais accessible à tous les propriétaires, bailleurs ou occupants, sans condition de revenus. Les travaux doivent impérativement être effectués par un professionnel reconnu garant de l'environnement, autrement dit RGE. Et il y a un tel engouement autour de cette prime, Élise Dangean, qu'en coulisses, on a du mal à suivre.
Oui, et notamment du côté des artisans du bâtiment qui, voyant le succès de MaPrimeRénov, sont nombreux en ce moment à demander leur label RGE, indispensable pour que leurs clients puissent bénéficier des aides de l'État. Prenez Qualité ENR, c'est l'un des 7 organismes agréés pour délivrer ce label et chez eux, il faut attendre un mois pour obtenir son précieux sésame. Contre une semaine en temps normal et pour cause, le nombre de dossiers déposés a augmenté de plus de 35% en un an. André Joffre est le président de Qualité ENR.
C'est toujours pareil, alors que le label existe depuis longtemps. En fait, les gens se précipitent au dernier moment. C'est en fait souvent lorsqu'ils sont confrontés à un chantier, ils ont une commande et leur client leur dit « vous êtes bien qualifié RGE pour qu'on puisse bénéficier des aides ». Et c'est là souvent qu'ils se posent la question de déposer un dossier. Voilà. Donc c'est une vague qu'il faut absorber.
Pour absorber la vague, André Joffre a déjà recruté 14 nouveaux salariés l'an dernier et cherche toujours 10 instructeurs supplémentaires. Pour les artisans pressés, il rappelle qu'ils ont le droit à 3 chantiers par an éligibles à MaPrimeRénov sans label RGE, si et seulement si le chantier fait l'objet de contrôle et que l'artisan s'engage à demander sa qualification.
Élise Dangean.
Cap sur les États-Unis, à présent on vous emmène en Virginie, à Richmond précisément, alors que l'Amérique s'apprête à tourner la page Trump, un rassemblement à haut risque se déroulait dans cette ville.
Oui, des manifestants armés, mais aussi résignés, sans grande illusion sur la suite des événements. Notre envoyé spécial, Xavier Yvon, les a rencontrés.
Entouré de ses amis armés de fusils d'assaut, Andy se sent en sécurité. Suffisamment, dit-il, pour porter fièrement sa casquette rouge Trump 2020. D'ici quelques jours, je pense que je ne pourrai plus la mettre. C'est un peu le baroud d'honneur, dit-il, résigné à voir Joe Biden entrer à la Maison-Blanche demain. Il y a 25 000 gardes nationaux. Il va rien se passer, mec, renchérit un membre des Proud Boys, un groupe néofasciste qui a participé à l'attaque du Capitole. Mais pour l'investiture, aucune consigne. On a coupé nos contacts, nos réseaux sociaux, je ne suis au courant de rien, se lamente le militant. Et même s'il y avait un appel à venir à Washington, le déploiement de sécurité est dissuasif. Je n'ai que 90 munitions sur moi, dit cet autre milicien. Qu'est-ce que je vais faire? M'attaquer à l'armée entière? Ils ne sont déjà pas nombreux à être venus manifester devant le Capitole de Virginie, totalement bouclé. Mes camarades ont eu peur, raconte Summer, venue toute seule avec son revolver à la ceinture. Il y a des rumeurs que Trump prépare quelque chose, dit-elle, sans trop y croire. Duncan, lui, rumine sa désillusion en serrant son fusil. Biden va être investi, dit-il. Nous, on va disparaître, aller s'entraîner et on reviendra quand il faudra. Richmond, Xavier Yvon, Europe 1.
Et la première dame, Melania Trump, vient en tout cas de publier un message d'adieu avec cette petite phrase.
Always remember that violence is never the answer.
N'oubliez jamais, la violence n'est jamais la solution. Voilà qui parlera peut-être à ces manifestants. Quant à Donald Trump, il passe sa dernière journée à la Maison-Blanche. Il pourrait en profiter pour gracier jusqu'à une centaine de personnes.
Nous nous sommes tant aimés. C'est un anti-héros français qui nous a quittés. Jean-Pierre Bacri avait 69 ans. Il a perdu son combat contre le cancer.
Oui, un comédien à la fois populaire et exigeant, un scénariste, un homme de théâtre. Beaucoup de ses films sont devenus de grands classiques. Didier, on connaît la chanson Cuisine et dépendance ou plus récemment Le sens de la fête. Retour sur 40 ans de carrière, Jean-Pierre Bacri nous a tous marqués. Jean-Jacques Herry vous a tendu son micro.
Bacri, mais c'était magnifique comme acteur.
Un gars qui grogne souvent, mais qui est quand même vachement aimé, quoi.
T'as quelque chose de fort, genre haute vie, ou on commence à s'emmerder ferme, là. Si je me fais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long.
C'était un jeu pour lui de paraître bougon en permanence.
Il incarnait bien un petit peu le côté un peu franchouillard, voilà, râleur, avec une gouaille assez particulière.
Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages.
Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet homme, je suis très très triste.
C'est une grosse perte pour le cinéma français.
Voilà, une grosse perte pour le cinéma français et un homme qu'on a tous beaucoup aimé.
Et c'est amusant quand même parce qu'on a tous cette image d'un Jean-Pierre Bacri un peu grincheux, un peu austère. Tous les témoignages, tous ceux qui le connaissent personnellement nous disent que c'était le mec le plus gentil du monde.
Zabou Breitman, il dit, il aimait bien faire la gueule, il trouvait ça reposant.
Alors on va pas résumer la carrière de Jean-Pierre Bacri au côté un peu grincheux comme j'ai même pu le faire en prenant l'antenne ce matin. Hommage ce matin et j'attends, allez je le challenge, je le défie presque. J'attends Nicolas Canteloup, 8h45, quelque chose me dit, je vous le disais, qu'on entendra du Jean-Pierre Bacri. Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un contexte de libération de la parole autour de l'inceste, des dizaines de milliers de témoignages avec le hashtag MeTooInceste, l'affaire du Hamel, le livre de Camille Kouchner. Après la libération de la parole, quels actes? Les victimes, les associations demandent du concret. Le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, est l'invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouette. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h14 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La crise économique que nous traversons est décidément hors norme. Les faillites d'entreprises n'ont jamais été aussi peu nombreuses depuis 30 ans.
Oui, c'est une situation qui peut surprendre évidemment la France, l'Europe. Ont connu leur pire récession depuis pratiquement un siècle avec une économie qui a plongé de 10% l'an dernier. Et pourtant, en effet, le nombre de faillites d'entreprises a été remarquablement faible. 32 000 faillites alors que depuis une douzaine d'années, la moyenne se situe plutôt entre 50 et 60 000 par an.
Alors, on va entrer dans le détail. C'est évidemment l'effet direct des plans de soutien à l'économie.
Bien sûr, ces plans très coûteux ont été efficaces en effet parce qu'ils ont été mis en place très vite. Dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, on a fait un autre choix et il y a eu une vague plus importante de faillites. En France, on a fait le choix du quoi qu'il en coûte, un chômage partiel massif, ce qui revient à nationaliser les salaires, un fonds de solidarité qui a épongé une partie des pertes de chiffre d'affaires, des moratoires, des directives aussi données aux URSSAF de ne pas assigner les entreprises qui ne payent plus au tribunal. Ces seules procédures URSSAF sont responsables en temps normal d'un quart des faillites en France. Or, elles ont été complètement suspendu. Bref, grâce à toutes ces mesures, la France, on le voit dans ses chiffres, a évité un tsunami de faillites.
Pour combien de temps? C'est la question, non?
Oui, effectivement, c'est la grande question de l'année qui commence. Et ce qui est assez inédit, c'est qu'il va falloir faire le tri, en quelque sorte, un peu comme doivent le faire les soignants dans des hôpitaux submergés, entre les entreprises qui méritent d'être sauvées et celles dont la survie artificielle ne pourra pas être prolongée. Il y a aujourd'hui en France un grand nombre d'entreprises dites zombies, qui auraient dû faire faillite l'an dernier. Elles sont aujourd'hui encore plus près du précipice. Le défi de 2021, ça va être d'éviter que leur défaillance n'en provoque d'autres dans la foulée. Bref, que le gel observé l'an dernier à coup d'aide publique ne se traduise par un dégel brutal cette année. L'espoir, évidemment, c'est le rebond de l'activité, un rebond directement lié au rythme de montée en charge de la vaccination, oui, laquelle est vraiment devenue le baromètre de notre économie.
Et retenez bien cette idée de course de vitesse, hein, finalement, avec cette vaccination, vacciner le plus possible de Français, en l'occurrence, puisqu'on parle de chez nous. Merci beaucoup, Nicolas, le plus possible et le plus vite possible. Merci. Exactement. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h16. Le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Retour au calme cette nuit en Tunisie, après après 3 nuits d'émeute et l'arrestation de 600 personnes.
Oui, janvier, c'est le mois de tous les dangers en Tunisie. Le gouvernement aurait dû y penser avant de décréter 4 jours de confinement. Ben Ali est tombé le 14, il y a 10 ans. En janvier, le début du soulèvement pour l'indépendance, les émeutes dans le sud, les grandes manifs, etc. Tout un passé que rumine un pays qui s'enfonce. Alors, le gouvernement a peur du Covid, on le comprend. L'épidémie a fait près de 6000 morts, c'est beaucoup en Afrique. Mais le virus fait encore pire. Il est en train de tuer l'économie. Un quart des emplois dépendaient du tourisme qui s'est évanoui. La misère s'étend. Il a aussi ruiné la vie sociale. Les manifs sont interdites, bien sûr. Mais les écoliers sont retenus à la maison, par exemple, 1 jour sur 2 depuis septembre. Et ils ont été privés de cours les 3 trimestres précédents.
Le gouvernement tunisien a avancé le couvre-feu à 16h au lieu de 20h.
Et donc, les plus jeunes des quartiers, les plus pauvres, ont refusé de s'entasser à domicile. Et ce week-end, ils ont défié la police avec des cailloux, avec des pillages. Les 600 émeutiers arrêtés hier ont entre 15 et 25 ans. C'est vraiment la violence grande consolatrice de l'idéal impatient.
Le président s'est rendu hier dans un quartier populaire pour dire que le chaos ne permettait pas d'avancer.
Alors, il n'a pas dit comment avancer. Ce président, avec son visage immobile, reste une énigme. Il est habité, mais on ne sait pas très bien par quoi. On le surnommait Robocop pendant la campagne. Un an après, on s'interroge toujours sur le programme de cet ordinateur vivant. Il aimerait régner comme les rois de France. Une alliance entre le palais de Carthage et le pays profond, les régions. C'est le rêve d'un prof de droit constitutionnel. Mais il ne va pas se débarrasser comme ça des grands féodaux du moment, les islamistes, le gouvernement de technocrates, l'opposition qui cite volontiers Bourguiba et regrette en silence Ben Ali. Les politiciens aussi sont à des années-lumière de la réalité sociale. Le Premier ministre vient de virer les ministres proches du président. Est-ce qu'il en avait le droit ? Les juristes se chamaillent donc depuis la semaine dernière, comme les religieux byzantins s'interrogeaient sur le sexe des anges alors que la ville assiégée s'apprêtait à tomber aux mains de l'ennemi.
Merci Vincent Hervouet. Il est 7h18 sur Europe 1. Vous restez avec nous tout de suite. Média Pro qui s'accroche ou qui se moque du monde, c'est à voir. Pour éviter l'écran noir, le diffuseur mauvais payeur propose de continuer à diffuser la Ligue 1. Mais gratuitement. L'édito sport, Virginie Fulpin, dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h20 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La Ligue de football professionnelle va remettre en vente les droits télé du championnat de France dans les tout prochains jours. On continue à suivre ce feuilleton déroutant. L'appel d'offres devrait être très court pour trouver un autre diffuseur dès le début du mois de février. Ça arrive, ça approche pour vous. Heureusement que ça doit être rapide parce que Mediapro avait encore osé proposer une solution qui n'en était pas une.
Ah bah le diffuseur mauvais payeur ose tout, hein. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Mediapro a envoyé à la Ligue une lettre en proposant de continuer à diffuser les matchs jusqu'à la fin de la saison. Non mais vraiment c'est trop aimable, hein, ce sens du sacrifice pour éviter l'écran noir au football français. Bon, si je résume, Mediapro a acquis les droits de la Ligue 1 pour 830 millions d'euros, a lancé sa chaîne Téléfoot, a retransmis les matchs, n'a pas payé ses traites, a fini par être évincé par la Ligue en laissant le football français exsangue et ses propres salariés sur le carreau. Et maintenant, le diffuseur veut se la jouer grand seigneur. Bon, il faut être sérieux, hein. Si je traduis, Mediapro a surtout voulu s'offrir une demi-saison gratuite. En voilà une idée révolutionnaire. Du coup, comment on fait, nous, en tant que téléspectateurs, vous nous l'offrez aussi gratuitement, notre demi-saison, où on invente une nouvelle fable du vautour et des pigeons. Comme profiteur de crise, Mediapro se pose là, hein, un modèle du genre. Donc, il vaudrait mieux que l'appel d'offres pour la revente des lots de Mediapro aille très vite, pour éviter le cynisme absolu de voir ce diffuseurs retransmettre quelques matchs supplémentaires pour éviter de voir celui qui a fait couler le bateau jouer les sauveurs d'écran noir.
Oui, parce que normalement, pour reprendre le calendrier, la chaîne Mediapro, la chaîne de Mediapro Téléfoot s'arrête le 31 janvier.
Alors si jamais il y a quelques jours de battement entre cette date et la fin du nouvel appel d'offres, autant que les matchs soient diffusés ailleurs, non ? TF1, M6 et France Télévisions ont aussi proposé à la Ligue de diffuser des rencontres. Alors soyons honnêtes, ces groupes se donnent bonne conscience en disant qu'ils veulent dépanner la Ligue. Bon, ils veulent surtout récupérer un peu de foot pour pas cher.
C'est les soldes un peu pour les droits du foot, hein, en France. Mais,
et alors, j'ai envie de dire au moins, eux, ils n'ont pas mis le football français à terre. Je préfère voir quelques matchs en clair jusqu'à la fin de l'appel d'offres plutôt que de faire un quelconque cadeau à Mediapro. Vous imaginez du foot en clair pour tout le monde, le temps d'une parenthèse, ça aiguerait nos soirées de couvre-feu et ça redonnerait une visibilité à notre championnat qui en manque tant, encore une fois, là, merci aux diffuseurs sino-espagnols. Et puis si jamais on a envie d'arrêter le foot et de voir les aventures d'un gentleman cambrioleur, on va plutôt choisir Arsène Lupin que Mediapro, non ?
Lupin, la série Netflix en l'occurrence. Non mais alors, c'est une vraie question que vous posez pour le coup. Est-ce que la Ligue de football professionnel peut accepter, par exemple, cette proposition de Mediapro ? Ça semble ahurissant, ça semble assez absurde.
Ça semble impossible, maintenant l'impossible, dans ce dossier, c'est un peu compliqué.
Tout est possible, ça on l'aura bien compris. Ce qu'on a bien compris aussi, c'est que Virginie Philpin ne va pas nous quitter pour aller travailler chez Mediapro. À mon avis, vous venez, vous pouvez tirer un trait dessus. Et je voudrais quand même qu'on comprenne bien plus sérieusement la complexité de l'organisation d'une journée de Ligue 1. Ce sont une dizaine de matchs. Oui, une dizaine de rencontres, beaucoup de personnel, des caméras, tout le monde ne peut pas le faire.
Tout le monde ne peut pas le faire,
TF1,
bien sûr.
M6, vous les avez cités.
Après, et c'est peut-être possible d'avoir que quelques matchs. Je ne sais pas du tout encore comment ça va se passer, évidemment.
On est le 19 janvier, Téléfoot s'arrête le 31, on va suivre. Merci beaucoup Virginie Philpin. Il est 7h23 sur Europe 1 et nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Parfois on reproche à nos dirigeants politiques de pratiquer la langue de bois. Et parfois, et ce n'est pas plus un compliment, d'avoir des propos sibyllins. Mais d'où vient cette expression, des paroles sibyllines ?
Alors, généralement, quand on a un discours sibyllin, on ne comprend pas bien le sens du propos. Ça vient de la Grèce antique, n'est-ce pas ?
Absolument. Apollon avait des prophétesses qui connaissaient l'avenir des hommes, les sibylles. Seul problème, quand ces oracles s'exprimaient, on ne comprenait pas forcément leurs réponses et leurs interprétations étaient délicates à saisir. Un peu comme avec le père Fouras dans Fort Boyard, vous voyez, ça reste toujours un peu énigmatique. Un exemple est souvent cité, celui d'un soldat romain qui avait demandé son avenir lors d'une bataille prochaine. Une sibylle lui avait répondu « Ibis, redibis, non morieris in bello ». Et ce sans virgule n'y pose entre les mots. Vous avez tous bien compris. Ce qui fait que la négation pouvait être interprétée différemment selon l'optimisme ou le pessimisme du guerrier. Ça pouvait dire « Tu partiras, tu reviendras, tu ne mourras pas à la guerre ». Ou « Tu partiras, tu ne reviendras pas, tu mourras à la guerre ».
Ah oui.
Le pauvre centurion dut prendre la route du combat pas plus avancée qu'il n'était avant de consulter la Élisabeth Téchier de l'époque. Notez que 300 ans avant Jésus-Christ, une série de livres circulaires dans l'Empire romain connu sous le nom d'oracle sibyllin, dont certaines copies datant du XIVe siècle existent encore aujourd'hui. Je vous rassure, j'ai tourné ce week-end, personne n'avait prévu la Covid-19.
Avec ou sans virgule. Stéphane Bern, on vous retrouve à 16h, historiquement vôtre.
Oui, on réunit la reine Victoria, le leader Maximo Fidel Castro et le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Leur point commun, vous voulez savoir ? Eh bien, ils l'ont échappé belle à des attentats, évidemment.
À tout à l'heure, 16h. 7h25 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant, la météo, Laurent Cabrol, le journal de 7h30 avec Sophie Echen, et puis 7h40, ne manquez pas ce nouveau rendez-vous dans Europe Matin, la touche âme, Bertrand Chameroy qui vient décrypter l'actualité à sa manière, à tout de suite. Europe 1. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous. Bonjour Laurent.
Oui, rebonjour.
Si je vous dis rebonjour, pardon. Si je vous dis parlez-moi de la pluie, Laurent.
Oui, ça nous rappelle Jean-Pierre Bacri. Hein. Parce que c'était quand même un film qu'il a réalisé, qui a été réalisé par Agnès Jaoui, dans lequel il jouait. Et franchement, s'il était là, c'est peut-être la phrase qu'il nous aurait demandé, tiens, ce matin.
Parlez-moi de la pluie alors, cher Laurent.
Je vais vous en parler. Les pluies arrivent et traversent le nord, la Picardie, la Basse-Normandie, les Ardennes, la Champagne. Elles sont un peu sur Paris. Elles vont rester sur Paris. Si vous avez quelque chose à faire sur la capitale, attendez cet après-midi. Il fera bien meilleur. Donc les pluies sont là, mais elles ne concernent qu'une partie nord de la France. Elles vont gagner la Lorraine et les Vosges. Et c'est un ciel dans l'ensemble qui va rester quand même très nuageux un peu plus au sud, sur la Loire-Atlantique, sur la Bretagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace. Là, nous aurons encore un ciel très couvert avec, pas trop de pluie quand même. Les autres régions sont sous soleil. Poitou-Charentes, Massif Central, région Rhône-Alpes, bassin méditerranéen, du soleil pour tout le monde et des températures relativement douces entre 9 et 13 degrés.
Merci beaucoup. Bon, alors j'ai compris, hein, parlez-moi de la pluie, mais il n'y en a pas tant que ça non plus.
Il n'y en a pas trop, il y en a bien sûr.
On va chercher, on va trouver un autre titre de Jean-Pierre Bacri pour la prochaine météo, je m'y engage. Merci beaucoup Laurent Cabrol, 7h29.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Sophie Echen est avec nous, bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Presque 7h30, un nouveau journal sur Europe 1.
Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques minutes, mais ça m'a rongé, ça m'a privé d'une partie de mon enfance. On n'a pas à avoir honte parce que c'est pas de notre faute.
Le témoignage poignant d'une victime d'inceste au début de ce journal. Elles sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole sur les réseaux sociaux et à demander des mesures fortes du gouvernement. Les masques en tissu fait dans ce journal aussi la mise en garde du Haut Conseil à la Santé publique contre les masques faits maison. En Bretagne, une coopérative se lance aujourd'hui dans la production de masques chirurgicaux 100% français. À Washington, les militaires de la garde nationale sont passés au crible à la veille de l'investiture de Joe Biden. Biden. Les autorités craignent une attaque de l'intérieur. Et puis si vous voulez profiter d'un resto gastro au prix d'un bistrot, rendez-vous à la fin de ce journal. Pierre Herbulot a classé pour vous les établissements étoilés au menu bon marché.
Juste après ce journal, votre tout nouveau rendez-vous, la Toucham, Bertrand Chameroy, qui rejoint l'équipe de la matinale et qui décortique l'actualité à sa manière. La parole se libère, vous le disiez Sophie, autour de l'inceste après l'affaire du Hamel. Quelle réponse du gouvernement ? Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique, Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Ce matin, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un pas de plus vers la libération de la parole. Plus de 3 ans après MeToo et après la publication du livre de Camille Kouchner qui révèle les abus d'Olivier Duhamel sur son frère dans les années 80. Aujourd'hui, les témoignages se multiplient via le hashtag MeTooInceste. Écoutez Audrey, 28 ans, violée 2 fois par son grand-père quand elle en avait 8.
Ça me permet de libérer toutes ces émotions que j'ai enfouies, de plus avoir ce poids à porter, d'avoir envie de vivre. Ces gestes, ben, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques minutes, mais ça m'a rongé, ça m'a privé d'une partie de mon enfance. Ça a eu des impacts sur ma vie d'enfant, de femme, dans mes relations amoureuses, ça a eu des conséquences énormes aussi sur ma vie professionnelle. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment envie de profiter du mouvement, de me sentir moins seule. Ce que j'espère vraiment, c'est que mon témoignage puisse à la fois m'aider à guérir, et aussi aider d'autres personnes à guérir, à oser parler. Que ce tabou, ben, ça devienne plus un tabou, que ça libère la parole. On n'a pas à avoir honte parce que c'est pas de notre faute ce qui est arrivé.
Témoignage recueilli par Caroline Baudry. Les faits ne sont pas prescrits et Audrey a porté plainte en octobre dernier. Elle n'a toujours pas eu de retour de la justice.
Ah oui, parce qu'il y a cette réponse morale qui est attendue sur cette question extrêmement sensible que celle de l'inceste. Mais la réponse judiciaire, il faut que ça avance. Qu'est-ce qui peut changer ? Nous en parlons avec Adrien Taquet, le secrétaire d'État en charge de l'enfance, juste après ce journal. Faut-il arrêter de porter des masques en tissu, les masques faits maison ? C'est en tout cas ce que recommande le Haut Conseil à la Santé publique, notamment face aux variants du virus.
Mais les masques artisanaux ne protègent pas suffisamment et le Haut Conseil estime qu'il vaut mieux utiliser un masque industriel en tissu de catégorie 1, c'est-à-dire qui garantit une filtration d'au moins 90% des particules.
Ces masques, dont la France a manqué au tout début de la crise, eh bien justement une coopérative bretonne se lance aujourd'hui dans la production de ces masques anti-Covid.
Et ça se passe à Grasse, près de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Les machines flambant neuves de la coop des masques vont être mises en route tout à l'heure. Charles Guyard.
Il y a même un sourd muet, j'ai appris, qui travaille. C'est vraiment génial.
Rémi n'en revient toujours pas. À bientôt 22 ans, le technicien de maintenance va côtoyer un collègue sourd, donc quand lui-même est autiste Asperger.
Même les personnes comme moi, on doit travailler. On a des capacités.
Ici, sur 21 salariés, un tiers sont en situation de handicap. Mais au-delà du volet social, la coopérative s'est aussi fixé une mission que résume Séverine.
On va démontrer que nous, les Bretons, les Français, on sait faire des masques.
Des masques made in France, comme on en faisait à 40 km d'ici, à plein jusqu'en 2018, lorsque l'usine a fermé, rendant ainsi la France dépendante des fabricants étrangers au moment de la crise sanitaire, 2 ans plus tard. Aujourd'hui, l'idée est donc de relocaliser, quitte à être un petit peu plus cher, mais Guy Asquette, le président de la coopérative, n'est pas du tout inquiet.
On est sur un écart à l'arrivée qui sera de l'ordre de quelques centimes de plus au masque. Les économies qu'on a faites en laissant tous délocaliser, finalement, est-ce qu'on n'a pas redépensé le même argent simplement pour de l'emploi qu'ailleurs ? Le projet, il est construit pour répondre dans la durée à une sécurisation d'une production auprès des acteurs du territoire.
Des acteurs déjà nombreux, puisqu'une 50aine de partenaires publics et privés, ainsi que 1500 citoyens actionnaires, ont déjà adhéré à la coopérative qui prévoit de produire au moins 45 millions d'unités par an. Grâce Charles Guyard, Europe 1.
Près de 480 000 personnes ont été vaccinées en France. Invité sur France 5 hier soir, et alors que la polémique enfle autour d'une pénurie de doses, le Premier ministre Jean Castex a assuré que le gouvernement allait mettre la surmultipliée. 430 000 injections supplémentaires vont être réalisées dans les EHPAD au cours des 2 prochaines semaines, a-t-il assuré.
La surmultipliée, c'est un nouveau mot que nous apporte aussi cette épidémie. On va avoir le temps de se l'approprier, de l'utiliser correctement. La surmultipliée. Bon. Aux États-Unis, c'est demain que Joe Biden prendra ses fonctions à la Maison-Blanche. Sa cérémonie d'investiture se déroulera dans des conditions parfaitement inédites.
Pas de public, Washington bunkérisé, totalement bouclé par la garde nationale à cause du Covid, mais aussi des risques sécuritaires. Et le déploiement militaire dans la capitale fédérale est extrêmement contrôlé car les autorités craignent une menace interne, Alexis Guillaume.
Oui, et c'est la hantise des autorités, voire un des 25 000 membres de la garde nationale présents à Washington commettre une attaque contre l'investiture. Le Pentagone dit redoubler de vigilance et assure que les profils des militaires déployés dans la capitale ont été analysés plusieurs fois. Pour le major général William Walker, commandant de la garde nationale du district de Columbia, c'est un processus tout à fait classique pour ce genre d'événement.
C'est juste une protection, puis une autre par-dessus, pour être absolument certain. Les soldats sont examinés avant de quitter leur état, et ils sont examinés à nouveau. Un contrôle régulier des antécédents est renforcé.
Et le Pentagone assure qu'à l'heure actuelle, aucune preuve de menace n'est sortie de ces contrôles renforcés.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et puis le guide Michelin a dévoilé hier son palmarès 2021 avec 57 nouveaux promus cette année.
Alors il va falloir attendre que les restaurants rouvrent pour aller les essayer. Et si vous vous dites que c'est trop cher, entrée, plat, dessert, amuse-bouche et tout le tintouin, eh bien Pierre Herbulot...
La carte des vins.
Eh bien écoutez bien, Pierre Herbulot vous a listé dans une carte interactive 100 restaurants étoilés à moins de 35 euros.
C'est un restaurant étoilé, ça a le goût d'un restaurant étoilé, mais à 25 euros, le menu déjeuner des Clés d'Argent à Mont-de-Marsan n'a pas le prix d'un restaurant étoilé.
Par exemple, on peut faire un velouté de butternut avec des pickles de châtaigne, ensuite un poisson sauvage de nos côtes avec des patates douces confites, et pour dessert, on peut faire une revisite du Paris-Brest.
Un menu d'appel pour le chef Christophe Dupouille, comme pour rassurer sa clientèle, parfois inquiète face à l'étoile accrochée sur sa façade.
Voilà, c'est resté accessible pour que les gens n'aient pas peur de venir. Restaurant étoilé, des fois, ils ont cliché des repas onéreux et ça nous permet de toucher cette clientèle.
Canard, sardines, cochon, l'astuce, c'est de bien sélectionner ses produits pour Philippe Hardy, chef du Mascaret à Blainville-sur-Mer, alias Monsieur 24 euros au déjeuner.
On ne va pas trouver de la Saint-Jacques ni du foie gras, mais par contre, on va trouver des produits qui sont un peu moins nobles. Après, c'est la technique, notre technique et la cuisson et le respect de la cuisson et surtout le respect de la qualité du produit.
Derrière, des dressages et un service version gastro, une addition version bistrot.
Ah ben voilà, et la carte de ces 100 restaurants étoilés à moins de 35 euros, hein, je le redis, elle est disponible sur notre site europe1.fr.
Mais c'est génial, on va le redire, europe1.fr, il y a 100 restos étoilés à moins de 35 euros.
Partout en France.
J'y vais à la sortie de la matinale me faire la liste et puis ensuite croiser les doigts pour que les restos puissent rouvrir à un moment. Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un avenir incertain et dans un futur très proche de nouvelles vacances scolaires. A-t-il gardé son optimisme des derniers mois? Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier Accor, invité d'Europe Matin à 8h15. Il répond aux questions de Sonia Mabrouk. Dans quelques minutes, nous revenons, je vous le disais, sur la libération de la parole autour de l'inceste. Vous avez entendu le témoignage d'Audrey dans le journal à l'instant. Je reçois le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, dans le tête-à-tête Europe Matin. Mais avant cela, tout nouveau rendez-vous de la matinale, la Toucham, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Si vous êtes encore sous votre couette, restez-y car je vais vous parler du nouveau livre de Bruno Le Maire et les draps risquent de s'en souvenir, comme disait la chanson.
A tout de suite, il est 7h37.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1. Je vous l'ai promis, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous dans Europe Matin. La Toucham, Bertrand Chameroy, tous les matins, son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et ce matin, vous nous parlez de littérature.
Oui, j'ai découvert une nouvelle tendance littéraire. On n'arrête pas le progrès, vous allez voir. Une influenceuse a fait la promo sur ses réseaux des fake books. Ce sont des reproductions de livres originaux, mais en plastique et sans aucun contenu à l'intérieur.
Qui vous permettent vraiment de décorer votre intérieur. Vous pouvez également vous en servir pour mettre dans un dressing, une bibliothèque. Enfin, franchement, je trouve ça hyper original. À savoir que les livres officiels, comme ça, avec les pages, etc., ça coûte assez cher.
Alors que sans les pages, bah, c'est beaucoup moins cher. Hein. Bon, 12 euros pour un bout de plastoc tout de même, mais c'est décoratif. C'est vrai que les livres sont de beaux objets, hein. Ce serait dommage de se priver du contenu, en revanche. Hein. Il est parfois bien plus joli que la couverture. Tenez, le dernier livre de Bruno Le Maire, par exemple. Le troisième depuis son arrivée à Bercy. Quelle santé. Un livre dans lequel le ministre de l'économie se décrit, je cite, comme un James Bond bureaucratique. Je vous en lis un véritable extrait. C'est beau comme du Barbara Cartland. Le Maire relate l'une de ses entrevues avec Emmanuel Macron. Il se tut, me fixa de son regard bleu sur lequel glissaient des éclats métalliques, comme un lac accablé de soleil dont il aurait été impossible, sous le scintillement des reflets, de percer la surface. Ah, je me sens tout chose. Lire du Bruno Le Maire, c'est une expérience. Hein. C'est comme regarder une comédie avec ses parents quand soudain, paf, scène érotique qu'on n'avait pas vu venir. Ah, j'en menais pas large dans le métro. Hein. Les gens me regardaient bizarrement, comme s'ils savaient que je lisais un roman harlequin. Alors, je sais ce que vous vous demandez, Mathieu. Où Bruno Le Maire trouve-t-il le temps d'écrire des livres? Eh bien, ce temps, il ne l'a pas, mais il le prend quand même. C'est ça qui est beau. Hein. Pourquoi devrait-il choisir entre gestion de crise sanitaire et écriture? Il fait les deux, les masques et la plume.
Oh,
et, dans, et dans son dernier bouquin, il ne se gêne pas pour rapporter les compliments sur sa personne, comme celui de Trump, qui aurait déclaré au chef de l'État « Vous avez un très beau ministre, Emmanuel. » Vivement le prochain ouvrage de Bruno Le Maire, au rythme où il l'écrit, il devrait sortir dans 2 mois. En exclusivité pour la matinale, je me suis procuré l'une des premières pages du brouillon. Devant mon miroir, la vision de cet homme à la crinière argentée provoqua chez moi un certain émoi. Les gouttes de sueur perlaient sur mon torse vigoureux, humidifiant ma chemise Yves d'Orsay. Dans la moiteur de Bercy, un troublant spectacle se préparait dans mes dessous en coton éminent. C'est on est passé en crypté. Bon, à demain.
La touche âme, tous les matins à 7h40, c'est sur Europe 1. Merci Bertrand Chameroy, on vous retrouve tout à l'heure aussi à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média. Il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
C'est à la une de l'actualité à nouveau ce matin. L'affaire du Hamel, le livre choc de Camille Kouchner il y a quelques jours. Et depuis, l'afflux de récits, de témoignages, comme autant de coups de poing sur les réseaux sociaux, le hashtag MeTooInceste. La parole se libère, les actes maintenant. Mon invité, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et des familles, Adrien Taquet.
Le tête-à-tête,
Mathieu Béliard.
Bonjour Adrien Taquet.
Bonjour Mathieu Béliard.
Alors cette libération de la parole, c'est l'expression consacrée hein, autour de l'inceste. Mm-hmm. Comment est-ce que vous mesurez ce phénomène au ministère ?
La grande émotion tout d'abord, et sans grande surprise en réalité. Vous savez, on a conscience, moi depuis 2 ans, je crie les chiffres que sont ceux des violences subies par les enfants, des violences sexuelles subies par les enfants, de l'inceste.
On parle d'un Français sur 10 qui aurait été victime d'inceste.
Depuis bien plus longtemps, les associations le font d'ailleurs. Eva Thomas, qui a été la première à parler d'inceste, c'était en 1986 à la télé. Et depuis, des associations comme Face à l'inceste, par exemple, régulièrement clament ces chiffres. Et donc, effectivement, dernière étude qui montre qu'un Français sur 10 aurait été victime, que 3 Français sur 10 connaîtraient une victime d'inceste. C'est ça la réalité. Une grande banalité.
Il y a ce hashtag MeTooInceste et le fait que vous ne soyez pas surpris quand on travaille ces sujets, on connaissait l'existence du phénomène, si j'ose employer ce mot, mais hors réseaux sociaux, on sait que les cabinets de psy sont submergés d'appels, que les associations reçoivent beaucoup d'appels, vous aussi ?
Bien sûr, beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages lors de mes déplacements. J'étais encore en décembre dernier à Agen, à la maison du docteur Bru, qui est la seule structure en France qui prend en charge des jeunes filles qui sont victimes d'inceste. Et on a eu des échanges et toutes nous ont dit qu'elles avaient le sentiment, quand elles étaient victimes, quand ça leur arrivait, que c'était normal.
Pourquoi ?
Parce qu'elles n'avaient pas de référentiel, de repère, parce qu'elles étaient enfermées par leur agresseur dans l'intimité du cocon familial, dans cet environnement délétère où on leur faisait croire que ce qui se passait était banal, normal, se passait partout. C'est ce mur du silence-là aussi qu'il faut briser.
Alors face à ces témoignages, à cette prise de conscience aussi, concrètement, que peut répondre le gouvernement que vous représentez ce matin ? Certains réclament, par exemple, que l'on revienne sur la prescription. Elle est de 30 ans, elle était de 20 ans. Marlène Schiappa l'a prolongée à 30 ans.
Absolument, la loi de 2018 porte de 20 à 30 ans déjà, à partir de la majorité de la victime, le délai de prescription. Vous savez, depuis 2019, depuis un plan du 20 novembre 2019 de lutte contre les violences faites aux enfants, que je vous conseille d'aller regarder sur le site du ministère, déjà un certain nombre de mesures pour lutter contre les violences faites aux enfants, et notamment les violences sexuelles. Améliorer la formation des magistrats, améliorer la formation des enseignants. Il y a mieux à faire encore et on y travaille avec Jean-Michel Blanquer, notamment pour mieux sensibiliser les enfants eux-mêmes contre les formes de violence qui les menacent.
Vous faites bien de mentionner les enseignants, ils sont aussi là pour détecter.
Absolument. Alors, vous savez, les enseignants dans notre pays sont les premiers pourvoyeurs de ce qu'on appelle les informations préoccupantes. Mais il faut probablement leur fournir davantage d'outils de repérage pour les violences sexuelles. Et puis, il faut sensibiliser les enfants aussi, vous savez, dans des pays comme la Suède, comme le Canada, sans faire peser la responsabilité sur leurs frêles épaules. Mais ils sont néanmoins les premiers remparts contre les violences qui les menacent. Parce que dès 4-5 ans, on peut commencer. On sait aujourd'hui comment parler à un enfant de la question du consentement, du rapport au corps, de l'intimité, du fait qu'il n'y a pas de petit secret entre un adulte et un enfant. Là, il faut qu'on progresse là-dessus.
Parce que, non, mais je me permets de couper là-dessus. Et l'exemple scandinave, évidemment, nous apprendra beaucoup de choses sur
ces questions-là. Également.
Les Canadiens, éventuellement, je connais moins, mais en France, on en est à débattre du consentement des enfants.
Alors, la question du consentement est aussi une question, mais une fois encore, il y a beaucoup d'autres sujets. Hein. La question du recueil de la parole de l'enfant victime, durcissement des peines contre les pédocriminels.
La question du consentement...
La question du consentement ne se pose pas que pour la question de l'inceste. Effectivement, l'inceste, on est dans un cadre, on est dans le cadre de la cellule familiale, où effectivement les phénomènes d'emprise, de conflit de loyauté sont bien plus importants que dans d'autres cadres. Mais vous savez, dans le domaine du sport, où il y a un certain nombre d'affaires qui sont sorties également... notamment avec la témoignage de Mme Habitbol, les phénomènes d'emprise aussi entre un entraîneur et son élève sont aussi très importants. La question du consentement, c'est une question importante. Elle a été évoquée il y a 2 ans à l'occasion des débats autour de la loi Schiappa que vous évoquiez en 2018. Nous avions dit à ce moment-là que nous allions confier à une députée, Alexandra Louis, un rapport pour évaluer un petit peu la mise en œuvre de cette loi sur tous ses aspects, pas que sur la seule question du seuil d'âge. Alexandra Louis a mené des travaux, elle nous les a partagés en décembre. Il y a des choses intéressantes, notamment sur la question du consentement. Moi, je pense que nous devons trouver les moyens juridiques, parce que c'est un peu ça qu'avait HOP à l'époque, pour établir effectivement, pour criminaliser les relations sexuelles entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans. Parce qu'effectivement, il y a une asymétrie entre un enfant, en termes de développement affectif, émotionnel, et un adulte. Voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles... nous travaillons en ce moment, sur lequel je pense que nous allons prendre des décisions.
Est-ce que la question est judiciaire, Adrien Taquet ? Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'on pourrait renforcer l'interdit, le criminaliser un petit peu mieux, peut-être revoir, rendre ces crimes-là imprescriptibles. Mais l'inceste, c'est le tabou suprême de quasiment toutes nos civilisations. C'est déjà interdit. Et pourtant, certains passent à l'acte.
Alors, vous dites c'est interdit, c'est pas vrai. Entre adultes consentants, ce n'est pas interdit.
Très bien. Et ça reste tabou pour autant.
Bien sûr.
Et ça reste tabou pour autant.
Effectivement,
est-ce qu'aujourd'hui, en pénalisant mieux l'inceste pratiqué sur des enfants, et on va partir du principe non consentant, est-ce qu'aujourd'hui, en renforçant cet interdit, on répond vraiment à la question ?
On contribue à y répondre, mais ça ne sera pas suffisant. La question de la loi, la question du consentement sont des sujets importants qui contribuent effectivement à briser ce tabou et à protéger les enfants. Mais ce n'est pas suffisant. C'est évidemment un sujet de société. C'est un sujet qui ne répond pas, qui ne relève pas du seul gouvernement, mais qui nous concerne tous individuellement et en tant que nation. Ça renvoie à des fondements de notre société. Ça interroge la famille. Ça interroge probablement un modèle de domination patriarcale qu'il y a dans notre société. C'est tout cela que nous devons affronter. Ça va prendre un peu de temps. Il faut que l'on veille à ce que le mur du silence qui a été brisé là, que le couvercle du silence ne se referme pas. Parce que vous savez, on va avoir, j'ai peur que nous ayons une prépension individuelle et collective à refermer rapidement le couvercle sur quelque chose qui va être difficile à affronter. Je pense que c'est un combat de long terme. La libération de la parole qui a cours aujourd'hui est formidable. Il faut l'encourager, il faut le pérenniser, il faut s'assurer que cela continue. Il y a encore beaucoup de sujets qui sont complètement invisibilisés aujourd'hui. On n'est qu'au début de l'histoire. On parle de libération de la parole. Vous savez que les enfants en situation de handicap sont plus victimes, comme les femmes d'ailleurs, des violences, notamment des violences sexuelles. Comment vous libérez la parole d'un enfant avec autisme qui n'est pas verbal ? Comment vous libérez la parole d'un enfant avec déficience mentale ? Voilà, tous ces sujets-là, ils sont devant nous. La violence, l'inceste sur les enfants handicapés, ça c'est un sacré tabou aussi, Mathieu Béliard. Il va falloir aussi l'affronter, parce que c'est une réalité. Donc vous voyez, on vient d'ouvrir une porte. Le chemin est encore long et nous allons devoir l'affronter collectivement. Ça va être douloureux, c'est absolument nécessaire.
Et ce sera l'objet du travail de cette commission indépendante qui doit travailler sur les violences sexuelles commises contre les enfants, qui était présidée par
Elisabeth. Ce qui n'empêchera pas que les choses soient très claires au gouvernement d'assumer ses responsabilités, de prendre les mesures urgentes qu'il doit prendre.
Lesquelles ?
Notamment réflexion sur l'inceste, notamment améliorer, je l'évoquais dans le prolongement du plan de 2019, la sensibilisation, la formation des enseignants et la sensibilisation des enfants, réfléchir, prendre des mesures rapidement sur la prise en charge psychologique des victimes.
Merci beaucoup Adrien Taquet.
Merci à vous.
Merci d'être venu répondre à nos questions en direct ce matin, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles. Ajoutons, et des familles quand même, c'est votre titre complet. Et c'est évidemment très lié au sujet que nous évoquions ce matin. Adrien Taquet, merci beaucoup. 7h51. L'édito politique, Nicolas Bétou, dans un tout petit instant.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est maintenant une certitude. Le mode de scrutin pour les prochaines élections législatives ne sera pas modifié.
Alors que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il s'était en effet engagé à faire plusieurs réformes institutionnelles. Limiter à 3 dans le temps le cumul de mandats, réduire d'un tiers le nombre de parlementaires et justement instaurer la proportionnelle pour l'élection des députés. Avec ce dernier renoncement, ça fait 3 promesses, mais 3 de chute.
Pourquoi ?
Problème de temps et problème d'opportunité aussi. D'abord, le temps manque. Pour passer à la proportionnelle, il faudrait d'abord défendre un projet devant la commission de contrôle du découpage électoral, puis faire voter une loi, et tout ça avant le printemps, puisqu'il est interdit de toucher à un mode de scrutin moins d'un an avant l'échéance. Ça veut dire techniquement qu'il ne reste qu'une journée, une seule journée. Oui, c'est avant-demain, tout au plus. Or, rien n'est prêt. Et puis, comme le confie Jean Castex en petit comité, si le gouvernement sortait ce projet actuellement, il serait accusé de hors-solisme, autrement dit de décalage.
Alors, ce n'est pas opportun, donc. Est-ce que c'est un problème pour Emmanuel Macron ?
C'est toujours un problème de ne pas tenir ses promesses électorales, même s'il peut, à bon droit, accuser le Covid d'avoir fracassé son calendrier de réforme. Mais c'est sur le plan politique que le chef de l'État peut avoir des regrets. Cette proportionnelle, c'était le dada de François Bayrou et du Modem, qui vont être déçus. Pas terrible pour l'ambiance de la majorité. C'était aussi une forme d'assurance pour l'avenir qui s'estompe. La proportionnelle, c'est en effet un moyen assez sûr de mettre en place des coalitions parlementaires. Et pour un président qui, s'il est réélu, n'a que peu de chances de retrouver une majorité parlementaire aussi écrasante qu'en 2017, la coalition, c'était une carte à jouer. Enfin, c'est comme un signe noir qui frappe une nouvelle fois toute velléité de transformer la démocratie. Dans une France qui se sent trop souvent mal représentée, mal défendue, la proportionnelle, c'était la garantie d'une plus grande diversité. Le grand débat n'a pas produit grand-chose. La Convention citoyenne est partie en vrille sur une vision doctrinaire du climat. Un comité Théodule tiré au sort vient d'être chargé de suivre la vaccination, mais il n'a ni légitimité ni pouvoir. Décidément, nouer le dialogue en direct avec le peuple ou avec ses vrais représentants, c'est compliqué.
Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h. Et tous les matins, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor. Et c'est bien sûr Nicolas Sarkozy qui est administrateur au sein du groupe qui est venu lui dire un mot.
Oui, administrateur et hôtesse d'accueil également. Les musiques. Bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Hello, welcome to the Hôtels Accor qui sont quasi closed. Les Hôtels Accor vous proposent des chambres toutes aseptisées et hydrogélisées toutes les 15 minutes. Vous pourrez également vous détendre dans un jacuzzi moussu, lavandisé et javelisé à l'aide d'eau de Javel. Attention, les jacuzzi peuvent piquer.
C'est pas simple.
Je coupe la musique.
C'est pas simple pour le monde du tourisme, Nicolas Sarkozy.
Ah ben ça, vous l'avez dit, les hôtels sont vides. Monsieur Bétou, Monsieur Béliard, c'est vrai que c'est compliqué. Heureusement que mon salaire, il est fixe aux hôtels Accor. Parce que si j'étais au pourcentage noté bien sur les résultats, je gagnerais des cacahuètes. Et franchement, heureusement que j'ai pas d'ennuis avec la justice en plus, sinon ce serait vraiment une sale année.
Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours. Ce matin, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor, à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Nicolas, on vous retrouve tout à l'heure, 8h45, pour la revue de presque. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Je commence par le soleil, le Poitou-Charentes, le Massif Central, le Centre, la région Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen sont sous le soleil aujourd'hui. Et puis la pluie, bien sûr, elle est là, Nord-Picardie, Basse-Normandie, Ardennes-Champagne et la région parisienne. Mais Paris, ça ira mieux cet après-midi, hein, si vous avez quelque chose à faire, tout le monde dort dans l'après-midi. Les pluies, enfin je suis aussi 18h, les pluies en Lorraine et dans les Vosges, il y en aura cet après-midi aussi, et très nuageux sur la Bretagne, la Bourgogne et sur l'Alsace. Voilà, l'essentiel. Deux tiers de soleil aujourd'hui avec des températures très douces entre 9 et 14 degrés. Je vous parlerai tout à l'heure de la suite. Elle me fait un petit peu peur car nous arrivons sous une période de grande perturbation. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent surtout.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Je retiens, hein, le gouvernement nous dit de ne pas sortir le soir. Laurent Cabrol, de ne pas sortir le matin. Faites comme vous pouvez. Hein. Pas trop de pression au réveil le matin. Merci Laurent.